Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau Noël avant l'heure, donc avec Monsieur Noël. Bonjour.
Bonjour.
Avec aussi Monsieur Lucas.
Bonjour.
Et puis, bah, présentez-vous les autres.
Voilà, bah, moi c'est Axel, Panoramix, toujours là. Bonjour à toi.
Bah, moi c'est Emma, bah voilà.
Bah, moi c'est Elisa.
Et puis, bah, je suis Axel. Voilà. Donc aujourd'hui, le sujet dont on va parler, c'est l'autisme. Donc c'est un sujet assez compliqué, mais Monsieur Noël s'y connaît assez, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition, s'il vous plaît ?
Alors, on peut commencer par définir ce qu'est l'autisme. L'autisme, je vais vous prendre deux définitions, si vous voulez, alors qui peuvent avoir des termes assez compliqués, mais l'objectif, c'est quand même de préciser exactement ce dont on parle. J'ai choisi deux définitions volontairement de deux sources différentes. Quand on parle d'un sujet tel que celui de l'autisme, que ce soit celui-ci ou un autre, il s'agit d'abord de définir, on va dire, scientifiquement, c'est-à-dire à partir de données étudiées, prouvées, testées, de façon à ce que l'on sache de quoi on parle et de façon ensuite à définir chacun des termes que nous pouvons utiliser. Alors, je vais prendre une définition qui est celle qui apparaît sur le site Wikipédia. Wikipédia, vous savez que ce site est un site où chacun peut apporter ses connaissances et la plupart du temps, il y a une validation scientifique, toujours, pour ce type de définition. Donc l'autisme sur Wikipédia, ou plus généralement appelé les troubles du spectre de l'autisme, donc les TSA, je le dirais souvent, certainement, les troubles du spectre de l'autisme, est un trouble du développement humain caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication avec les comportements stéréotypés persévératifs. Alors, on expliquera peut-être après si vous voulez. Ces symptômes sont souvent détectés par les parents durant les premières années de la vie de l'enfant en fonction de la présence ou non de troubles associés. Souvent, nous pouvons détecter des troubles associés à l'autisme. Et de l'origine prototypique ou secondaire, les personnes autistes peuvent maîtriser ou non le langage, avoir des retards ou des précocités scolaires. Précocité, alors on verra, c'est souvent une déficience intellectuelle ou une intelligence supérieure à la moyenne et plus rarement manifestée du savantisme. D'accord ? Donc le savantisme en français, c'est le fait d'être savant. D'accord ? Donc ça, c'est le début de la définition sur Wikipédia. Et puis, j'ai pris une autre définition qui est celle qui apparaît sur le site de l'INSERM. Donc c'est un institut national de recherche français. Donc, pour l'INSERM, la définition donc, qui est réalisée par le professeur, donc il y a un docteur, un médecin, mais au grade de professeur, Catherine Barthélémy, de l'université de Tours. Pour elle, l'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement affectant les relations interpersonnelles. Et c'est peut-être ce sur quoi il faut insister quand on parle d'autisme. C'est vraiment une affectation des relations interpersonnelles. Les troubles du spectre de l'autisme, les TSA, résultent d'anomalies du neurodéveloppement, d'accord ? C'est-à-dire d'un développement neurologique. Ils apparaissent précocement en cours de la petite enfance. Ils apparaissent à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas présents avant. En tout cas, on s'en rend compte à ce moment-là et persistent à l'âge adulte. Ils se manifestent par des altérations dans la capacité à établir des interactions sociales. Vous voyez, on revient encore sur ce terme d'interaction sociale et à communiquer, ainsi que par des anomalies comportementales, en particulier une réticence au changement. Ça, c'est ce qu'on peut le plus observer chez les individus atteints de troubles autistiques. Changement et une tendance à la répétition de comportements ou de discours. On peut observer certains balancements chez certains individus, des phrases redondantes, etc., des attitudes redondantes également. Les personnes concernées semblent souvent isolées dans leur monde intérieur. Souvent, pas toujours, et présentent des réactions sensorielles, auditives, visuelles, cutanées ou autres, particulières. Particulières, quand elle dit ça, c'est souvent en fait des réactions exacerbées. D'accord ? À l'extrême. Mais voilà, je fais des petites interventions au milieu de cette définition pour qu'on puisse ensuite revenir sur ces points-là sur lesquels nous pourrons insister. Malgré la diversité des troubles et les capacités d'insertion sociale très variables de ces personnes, l'autisme est reconnu comme un handicap en France depuis 1996 seulement. 1996 seulement, d'accord, reconnu comme un handicap. Il nécessite une recherche pluridisciplinaire pour comprendre ses mécanismes et améliorer sa prise en charge. Alors, simplement une petite précision, en France, il y a environ 700 000 personnes concernées, d'accord, un peu moins d'un million. dont 100 000 personnes actuellement ont moins de 20 ans. D'accord, 100 000 personnes. Et on peut noter que les premiers signes apparaissent dès la petite enfance, entre les 18 et 36 mois, d'accord ? Avant les 3 ans de l'enfant, les signes apparaissent déjà. Il s'agit bien de dire que c'est une origine multifactorielle, d'accord ? Mais, alors pendant plusieurs années, et je terminerai juste mon introduction là-dessus, pendant plusieurs années, on a considéré, jusqu'à très récemment, qu'il n'y avait pas d'origine génétique. Aujourd'hui, toutes les recherches tentent à prouver, à démontrer qu'il y a une large partie de cette explication de ces explications qui sont effectivement d'origine génétique. Voilà pour ces premières définitions et pour entrer dans le sujet.
Ok.
Merci beaucoup pour cette définition. Donc c'est bien qu'on a parlé de certains points pour définir plus simplement. Donc parce que ces définitions sont un peu compliquées. Mais donc maintenant, je pense qu'on va commencer à parler de l'autisme. Est-ce que vous voulez déjà parler de l'autisme dans l'histoire ? Donc c'est-à-dire d'où on l'a trouvé,
diagnostiqué.
Voilà, quand elle a été diagnostiquée.
Oui. Alors les premières recherches ont été faites en 1911 pour toi, Axel. Alors il y a énormément de recherches qui ont été effectuées sur des personnes qui relevaient, on va dire, de pathologies inexpliquées pendant de nombreux siècles. Et effectivement, depuis le début du XXe siècle, de nombreux chercheurs ont pu poser des termes, des idées, fournir des protocoles ensuite d'études pour que scientifiquement nous puissions avoir des recherches de qualité pour définir ce qu'est l'autisme.
Si je peux me permettre, en fait, la dernière fois j'ai discuté avec vous, vous me disiez qu'il y a différents degrés d'autisme. Pour en revenir à l'histoire, il y aurait des chercheurs du type Newton, Einstein qui auraient été des autistes Asperger. Mais en fait, ça, on n'en est pas sûr du tout, quoi.
Alors, l'autisme Asperger, c'est vraiment une caractéristique particulière de l'autisme. C'est un homme qui s'appelle Asperger, qui a donné son nom à cette définition clinique, d'accord, qui a été donnée, au début des années 80-90. Suite à ce qu'il a pu lui poser comme diagnostic. Alors qu'est-ce que c'est que le syndrome Asperger ? Il faut être vigilant à ne pas considérer tous les troubles autistiques comme étant des troubles Asperger. Le trouble Asperger, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce sont vraiment des troubles autistiques, on va dire, plus exacerbés, plus tirés, plus importants peut-être plus visibles. Chez un individu atteint de troubles autistiques.
Par exemple, je vais prendre l'exemple d'autistes que je connais, que j'ai déjà côtoyé. Donc un autiste comme ça, s'il vous dit « ne me touchez pas », il ne faut pas le toucher parce qu'en fait, il pourra partir dans une sorte de crise et, par rapport au fait que des fois, ils ont peur de... Il faut que ça soit très propre pour eux. Et pour eux, vous êtes sale. Il a besoin de ça.
Alors je comprends ce que tu dis, Axel. Alors il y a une chose qui est essentielle à comprendre aussi dans les syndromes de troubles autistiques. Et vous voyez d'ailleurs que je dis pas qu'une personne est autiste, jamais. On est atteint de troubles autistiques. Alors en tirant le trait, on peut parler d'autiste ou d'autisme, mais en réalité il s'agit bien du champ autistique, c'est-à-dire qu'on est atteint à un moment donné de troubles qui appartiennent au spectre autistique, d'accord, au spectre, c'est-à-dire un large panel de possibilités. Il faut savoir qu'il n'y a pas un trouble autistique, qu'il n'y a pas un autisme, que chaque individu est vraiment différent. Cependant, certes, un individu, un autisme particulier, cependant, on peut quand même avoir une certitude, c'est que une certitude. Le terme est un peu exagéré. En tout cas, avoir des observables communs des observables redondants qui nous permettent de définir très concrètement aujourd'hui qu'un individu est atteint de troubles du spectre autistique, de TSA. D'accord ? Ça, c'est vraiment important d'en être, de l'observer et d'en être aujourd'hui, comment dire, des savants, des sachants sur ces pathologies qui, alors le terme pathologie aussi peut faire rebondir, puisque pendant longtemps, certains spécialistes ont considéré que les troubles du spectre autistique n'étaient pas une maladie. Alors tout dépend ensuite de ce qu'on entend par maladie, bref. Mais ce terme, il faut quand même prendre ça avec des pincettes, parce que tous les chercheurs aujourd'hui ne sont pas unanimes sur l'utilisation de ces termes. Alors je déborde un petit peu par rapport à la question que tu posais, mais il me semble quand même important, en début, en préambule, avant de perdre tout le monde, de poser ces idées-là, qui sont quand même des idées force, me semble-t-il, pour parler des troubles du spectre autistique. Donc la question que tu me posais, Axel, hein, c'était est-ce que peut-être tous les autistes réagissent de cette manière quand on les touche. En tout cas, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que même si certains réagissent de cette manière-là en disant « moi, je suis propre, ne me touche pas », etc. Oui, il peut y avoir, un spectre multifactoriel associé à l'autisme, d'accord ? C'est-à-dire que quelqu'un peut réagir de cette manière-là en ayant des considérations tirées à l'extrême concernant l'hygiène. Ça, ouais. C'est possible. Hein. Mais ça ne concernera pas tout.
Généralité, c'est dans un cas précis,
oui.
Je parle.
Oui, c'est possible. Donc, il faut garder à l'esprit que l'autisme, justement, se définit de cette manière-là. C'est que tout est dans l'hyper ou dans l'hypo. Qu'est-ce que ça veut dire ?
L'exagération de tout.
Voilà. Alors, l'exagération, c'est un jugement de valeur, mais oui, effectivement, c'est l'idée. L'exaspération, c'est tirer, l'exacerbation, pardon, et l'hyper, c'est vraiment tirer à l'extrême des réactions qui, a priori, pourraient être vues comme des comportements, des considérations banales chez un individu, ou alors dans l'hypo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction, il y a une sorte d'apathie aux interactions sociales.
Ok. Moi, par exemple, voilà, je suis professeur, je ne me suis pas présenté, donc je suis professeur en section bac pro, et j'ai déjà eu donc un élève autiste Asperger, enfin qui avait le trouble du syndrome autistique, voilà pour dire, qui a eu son bac. Donc c'est vrai que aujourd'hui j'ai un autre élève qui a le syndrome et trouble autistique, et donc c'est pour ça que cette émission elle m'intéresse. Le premier, il a eu son bac. Et des fois, on n'est pas forcément hyper bien formé, d'où la nécessité de se renseigner. Et moi, je voulais poser la question, c'est un élève qui a le trouble de syndrome autistique, des fois, c'est son intégration dans un groupe avec des élèves, entre guillemets, normal. Enfin, c'est un peu dur de dire ça.
Ouais. On va utiliser le terme normal, si vous voulez. On peut utiliser le terme de typique, par exemple.
Hein? Typique, ok, typique, je m'en souviendrai.
Oui, c'est tout l'enjeu, effectivement, de vivre dans un milieu qui peut paraître hostile quand on est atteint de TSA, quand on vit avec des troubles autistiques, vivre dans un milieu où la plupart des gens ne sont pas autistes, c'est compliqué. Et c'est plus compliqué pour eux que pour les personnes typiques, normotypiques, on peut dire aussi, hein, d'accord ? Normaux, voilà, ça revient à normalité, de la norme, ayant des habitudes comprises par tous et qu'il comprend lui-même généralement. Voilà, donc c'est ça. Donc, des comportements normotypiques, oui, effectivement, pour un autiste, c'est compliqué. Vous voyez, je dis le terme autiste parce que ça va plus vite. Mais pour un TSA, c'est dur parce que la construction neurodéveloppementale, c'est-à-dire du développement neurologique, des neurones, hein, d'accord ? Donc là, il faudrait parler, effectivement, quand on parle d'autisme, à un moment donné, il faut parler de développement neurodéveloppemental avec les fonctionnements cognitifs, on va dire, ordinaires, même si c'est pour vraiment utiliser des termes un peu simples. Mais l'objectif, en tout cas, c'est de comprendre que quelqu'un qui a des troubles neurodéveloppementaux de ce type-là a des grandes difficultés et on aura toujours à comprendre le monde qui l'entoure, à le comprendre et à avoir des relations sociales, on va dire, habituelles.
À s'y adapter. Et en fait, là aussi, ce que je vous vous pose, en fait, c'est que c'est les gens typiques aussi qui ont un souci pour appréhender un élève de type TSA. Et en fait, si les élèves, on leur explique pas que leur camarade, il a des troubles ou qu'il a juste un handicap. Moi, des fois, je dis un handicap social. Si je ne le dis pas ça aux autres élèves, en fait, ça se passe très mal. Ils ont du mal. En fait, les gens typiques ont aussi du mal à intégrer un élève qui a des troubles autistiques.
C'est la question la plus passionnante, je trouve. Ah, si je peux me permettre. De par les observations moi, que j'ai pu faire, en tout cas, les lectures diverses et variées sur le sujet d'auteurs atteints d'autisme, dans le champ du spectre autistique, la chose essentielle à comprendre, c'est que je ne sais pas où est la normalité, en fait, pour reprendre le terme initial. C'est-à-dire qu'en définitive, qui a du mal à s'adapter ?
Oui, c'est clair. Hein.
Voilà. Qui a du mal à s'adapter ? On va dire que c'est la personne atteinte d'autisme. Et pourquoi, en fait ? Parce que si elle est avec d'autres personnes autistes, et ça se passe plutôt pas mal. Cependant, ils sont une minorité. Et donc, il y a des normes sociales. Il y a des normes sociales qui ont été intégrées depuis notre plus jeune âge. D'accord ? Je parle des personnes typiques. Des normes sociales intégrées depuis le plus jeune âge. Transmise par l'environnement, d'accord. L'environnement, c'est les parents, c'est la famille, c'est les enseignants, les amis, les frères et sœurs, ça l'environnement, d'accord. On appelle ça l'environnement. Donc des normes transmises, des réactions transmises. Sauf que eux ont un fonctionnement. Les personnes dans l'autisme ont un fonctionnement tellement différent et cependant parfois allez, je me mouille un peu, tellement supérieur dans la manière d'aborder le monde, dans la manière de comprendre le monde, avec une hypersensibilité la plupart du temps. Il peut y avoir une hyposensibilité aussi, hein, d'accord ? Mais cette hyposensibilité, on ne sait pas trop l'expliquer, et la plupart du temps, cette hyposensibilité est une hypersensibilité cachée pour telle ou telle raison, justement, d'empêchement dans la relation sociale. Mais ces personnes ont quand même souvent, certes, d'autres pathologies associées, pathologie c'est un grand mot, mais d'autres troubles associés, en tout cas, troubles ça fait plus politiquement correct, mais d'autres troubles associés, et ces personnes-là, en définitive, ont des capacités bien plus supérieures à une personne normotypique. Excusez-moi pour la réponse un peu longue.
Ok, bah merci beaucoup. Est-ce que vous, là, les élèves, parce que bon, c'est vrai que je parle un peu beaucoup, vous avez des questions ou des remarques, et excusez-moi, je vais continuer. Est-ce que vous avez vécu en classe avec un élève qui avait des troubles autistiques ?
Bah, alors moi, j'en ai jamais rencontré, de personnes atteintes d'autisme. J'ai pu voir des documentaires et des séries où il y en avait et tout ça, mais j'en ai jamais rencontré. Est-ce que c'est commun, on va dire ? Enfin, il y en a beaucoup ou...
J'ai dit tout à l'heure, hein, 700 000 personnes en France, presque 1 million. On est combien en France ? 80 millions aujourd'hui ?
C'est à peu près 1 pour 8, hein, en gros.
Voilà. Donc 1 pour 10, oui, bon, voilà. Donc, en tout cas, il y a des... c'est pas 1 pour 10, hein.
C'est 700 000, hein.
D'accord,
ou 1 pour 1000.
C'est pas pareil, hein. D'accord. Donc on est à 700 000, on va
on
dire
est 70,
allez, 70 millions.
Millions,
ça fait quoi de pourcentage, Axel? Oui, ça fait 1%, d'accord. On est d'accord.
1%.
Donc effectivement,
je dis 1 pour 1000,
hein,
mauvais
boiteux. Donc oui, 1% c'est beaucoup. Donc quand on dit j'en ai jamais rencontré, c'est pas possible.
Non,
c'est ce que tu crois, c'est ton interprétation. S'il peut t'être passé à côté, et voilà, ça se remarque pas forcément, c'est pas écrit.
1%, 1 pour 1000, 1 pour 1000, d'accord. On est dans un établissement de presque 2000 élèves, ça veut dire que potentiellement, on peut rencontrer entre 0 et allez, 4 pour être dans la statistique, on va dire, en moyenne, d'accord. Donc, oui, et puis de toute façon, ce chiffre, moi, je l'aime pas trop. Là, je vous ai simplement donné un nombre, pardon, qui est cité par l'INSERM, par une recherche scientifique. Moi, il ne me plaît pas parce qu'en fait, il s'agit de personnes, je pense, qui ont été repérées comme telles. Mais quand vous vous posez la question aujourd'hui quand vous vous positionnez en tant qu'observateur, ou quand vous vous questionnez sur vous-même, à un moment donné, vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être des degrés aussi, il y a peut-être des degrés. C'est une question scientifique que je pose à un moment donné. Il y a des degrés peut-être d'atteinte des troubles. Degrés d'atteinte des troubles. Je vais vous prendre quelques exemples qui peuvent vous intéresser, si vous voulez.
Si vous voulez, je peux parler de cas, parce que en fait, ça fait depuis tout petit. Je vis avec des TSA et plusieurs types parce que donc mon père est éducateur moniteur spécialisé dans l'autisme, donc dans les troubles du spectre autistique, et il leur apprend donc à faire à cuisiner. Et donc depuis tout petit, donc j'en vois, je parle avec eux et j'ai réussi à me sociabiliser avec eux, à prendre la parole, parce que d'une certaine façon, au premier approche, on les voit un peu comme, je vais parler moi-même en tant que petit, quand j'étais petit, je les voyais différents de personnes comme nous, comme des personnes typiques. Donc c'est-à-dire qu'on les voit un peu comme des personnes qui sont, excusez-moi du terme, j'aime pas dire ça, folles.
Oui, c'est ce qu'on pensait avant, en tout cas. C'est important ce que tu dis, ce que tu dis comme terme, la folie. Vous savez, avant le 19e siècle, avant le 20e siècle, même encore pendant une grande partie du 20e siècle, je ne fais exprès pas de donner de date, mais les hôpitaux psychiatriques étaient remplis de personnes considérées comme étant dans la folie, sans autre diagnostic posé. Et évidemment, il y avait des traitements administrés, hein, chimiques notamment, mais pas seulement. Voilà, on paraît être dans le morbide, mais il y a eu énormément de tests aujourd'hui qui nous paraissent complètement inhumains dans le traitement des individus. Évidemment, on en est loin aujourd'hui, mais je pense qu'on est encore très loin de la capacité on n'est pas en capacité aujourd'hui de comprendre vraiment comment cela fonctionne. On en est aux prémices. Donc oui, quand on a encore un raisonnement, on va dire enfantin, et c'est ce que tu décris, oui, parce que oui, tu étais enfant, oui. Quand on a un raisonnement enfantin, on peut tout simplement dire que ces personnes sont folles. Sauf que là, on a une vision préhistorique de l'autisme.
Mais ça, c'est au premier abord, quand on les connaît pas personnellement. Mais après, quand on creuse, voilà, merci Axel, quand on creuse un peu, ben, on voit qu'ils ne sont pas démunis d'affection, mais qu'ils en ont même plus que d'autres. Comme, je n'ai pas le droit de citer les noms, mais il y avait donc un TSA qui était là, et je jouais souvent avec lui. Je faisais beaucoup de dessins, il voulait que je fasse des dessins pour lui. Mais toute personne qui m'approchait, donc que je ne connaissais pas, ou qui pouvait donc me faire du mal, eh bien, il me défendait. Je ne faisais rien. Il se mettait automatiquement, s'interposait entre moi et la personne pour montrer que voilà, il faut pas toucher cette personne, il faut pas. Et par lui-même, il faisait comprendre à la troisième personne. C'était assez impressionnant de voir ça.
Mais une des conséquences de ce trouble, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était l'exagération. Donc, je pense que ça en fait partie.
Pas l'exagération, l'exacerbation, c'est pas pareil. Parce que l'exagération, ça veut dire que c'est volontaire. Et là, en l'occurrence, ça l'est pas.
Oui, d'accord. Mais tout dans le plus ou tout dans le moins.
Voilà, exactement, tu as raison. C'est ça, tout dans le plus ou tout dans le moins, souvent. Et dans le plus, plus, plus,
oui.
Ou dans le moins, moins,
je
moins.
Je connais un cas où c'est dans le plus, plus, plus.
Oui, voilà. Et alors, ce qu'on peut observer le plus souvent, c'est des réactions violentes chez certaines personnes, du fait, on va dire, de percevoir comme une attaque, souvent, une approche, notamment le contact physique.
Oui, ça.
Alors, on ne peut pas être parfait en faisant une émission courte, évidemment, mais, et d'ailleurs, si des personnes concernées nous écoutent ou nous regardent, évidemment, je m'excuse vraiment auprès d'elles ou de ces personnes parce qu'on ne fait qu'effleurer le sujet et on ne parle pas vraiment d'eux nécessairement. D'accord ? Et ça, c'est vraiment important, me semble-t-il, d'accepter ces excuses. En tout cas, pour moi, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité que j'en parle parce que je suis pas un spécialiste accrédité pour parler de l'autisme. C'est une question qui m'intéresse beaucoup personnellement. pour plein de raisons. J'ai touché du doigt, on va dire, de près l'accompagnement de plusieurs élèves. Voilà, de plusieurs élèves, oui. Et c'est vrai que je crois que c'est important de se dire qu'on ne peut pas évoquer tous les sujets qui concernent les troubles autistiques. En tout cas, une chose est sûre aussi, c'est que même si ces réactions peuvent paraître incompréhensibles, elles sont toujours la réaction, elles sont toujours en réaction à une interaction sociale. Toujours. C'est-à-dire qu'il y a un individu dans les TSA qui réagit de façon surprenante, violente, extrême, etc., le fait pas par hasard.
Oui, c'est ce que mon père m'apprenait. Il me disait qu'il y a toujours une cause à effet, en fait.
Voilà. Il n'y a pas de hasard. Et il y a quelque chose, en tout cas, qu'il faut bien avoir en tête, notamment quand on est professeur. Et c'est peut-être... j'aurais peut-être dû le dire avant, mais je vous le dis, c'est tellement compliqué de... Il y a une chose essentielle, c'est que les personnes dans l'autisme n'ont pas la capacité immédiate de comprendre et d'intégrer le changement. Le changement immédiat. Le changement immédiat. Exemple. L'enfant sait que ce matin, il a cours à 8 heures. Il a un cours de dessin industriel à 8 heures. Et il sait qu'à 9 heures, il a un cours d'histoire. Et puis, les professeurs se sont mis d'accord pour échanger leurs cours, pour une raison, c'est un exemple, hein. Un peu tiré par les cheveux, mais ont décidé de faire à 8 heures le cours d'histoire et à 9 heures le cours de dessin industriel. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? L'enfant, l'élève, l'individu, comment va-t-il réagir ?
Il ne va pas comprendre le fait...
Alors, je ne sais pas s'il ne va pas le comprendre, mais une chose est sûre, c'est qu'il peut potentiellement... On va dire qu'il y a une statistique très forte pour qu'il y ait une crise aiguë. Une crise aiguë qui peut s'exprimer de différentes manières. Alors qu'il peut être un enfermement total sur lui-même, d'accord, avec un balancement notamment du corps parce qu'il n'arrive pas à assimiler le changement. Ou alors carrément une explosion qui peut être très violente. Hein. Taper contre un mur, taper sur quelqu'un, etc. Même s'il n'en veut pas. Se frapper lui-même, exactement. Prendre des objets contondants, etc., etc., etc. Donc c'est vrai que le changement, c'est la chose la plus compliquée pour une personne atteinte d'autisme. Et donc, c'est pour ça que si on veut accompagner au mieux ces personnes, si on veut les accompagner au mieux, il faut, a priori, mettre en place des protocoles comportementaux, cognitifs, d'accord, de prise en charge cognitive et comportementale dans l'accompagnement thérapeutique, hein, pour trouver des solutions, pour que l'individu puisse prendre en considération plus facilement les changements à l'avenir. Et c'est ça tout l'enjeu, en tout cas nous dans le système éducatif, c'est se dire j'ai un individu autiste, atteint d'autisme, comment je fais pour que sa scolarité lui permette la réussite, permettre d'être dans la réussite, d'avoir une orientation et de faire des études s'il le souhaite, ou d'avoir un travail s'il le souhaite, ou de faire un apprentissage s'il le souhaite. C'est tout ça, nous, l'objectif, c'est de l'accompagner au mieux. Donc, sans protocole connu de tous, c'est voué à l'échec.
Et donc aujourd'hui, on a quoi comme protocole ? On a des AVS, qu'on appelle aujourd'hui AESH, qui accompagnent...
Ça, c'est des personnes aidantes, c'est des aides humaines. Mais le protocole, c'est un protocole écrit sur un document où, en fonction de la spécificité de l'individu, on va mettre en place des réactions pour nous, hein, les réactions que nous devons avoir en termes de vie scolaire, en termes d'enseignants, qui on contacte, comment on accompagne l'élève, où est-ce qu'on le met, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on fait pas. C'est ça le protocole.
On travaille avec les parents aussi.
Oui, bien sûr, évidemment, en premier. Et ça ne peut être fait qu'au cas par cas. Et évidemment toujours avec un psychologue. Okay. Un psychologue qui va avoir qui a une formation dans la prise en charge de ses enfants ou adultes.
Ok. Par exemple, Elisa, je crois que toi, tu as été en classe avec un jeune ayant des troubles autistiques. Tu as des souvenirs. Ça t'a fait quoi? Tu peux dire ce que tu as ressenti ou comment tu l'as vu?
C'était la première fois que je voyais un élève comme ça. Du coup, je m'approchais de lui, genre, mais pas comme si c'était quelqu'un de différent, mais comme si c'était quelqu'un qui était comme nous. Et en fait, il l'a pas mal pris, mais il a été distant et il voulait parler avec personne et il voulait pas trop rester avec nous. Il restait plutôt à l'écart et il était violent avec nous. Mais après, en arrivant au collège, il s'est fait, il a réussi à s'intégrer. Et du coup, j'étais contente, mais en même temps, je me suis dit, il n'a pas voulu être mon pote, donc c'est pas très grave, mais bon, je suis contente pour lui. Parce qu'il a réussi à s'intégrer au collège et à devenir un peu comme nous, quoi. Mais voilà.
D'accord, avancez. Axel, tu avais quelque chose à...
Oui. Donc cet été, j'ai passé mon BAFA et je me suis occupé d'un enfant de 8 ans qui était atteint de troubles autistiques, donc pendant un mois. Et donc je devais tenir parce que j'ai un approfondissement dans l'autisme, mais dans l'enfance. Et donc je tenais un suivi sur cet enfant. Désolé. Sur cet enfant. Et j'étais toujours en liaison donc avec la directrice, le psychologue et ses parents. Et tous les jours, je devais marquer ce qu'il faisait. Tout le temps. Mais je ne pouvais pas, donc par lui, par cet enfant, je ne pouvais pas le laisser avec un autre animateur. Parce qu'il n'aimait pas le changement.
Il s'était habitué à toi.
Il était habitué à moi. Je l'ai fait une fois. Parce que j'avais besoin de souffler un peu. Ben, il a fait une crise aiguë. Ça ne l'a pas loupé, je dirais. Et j'ai dû revenir très vite pour gérer ça. Mais. Au final, on s'accroche beaucoup à ces enfants-là. Et même, on le voit que les enfants typiques, par eux-mêmes, ils vont pas délaisser l'enfant. Ça, c'est notre peur en tant qu'animateur. On a peur que l'enfant soit délaissé. Eh bien, pas du tout. Il est même intégré plus qu'on le pense. Il est aidé à tout faire. Et ça leur dérange pas que l'enfant atteint de TSA viennent vers eux, leur fassent un câlin à un moment affectif et juste après il part comme si rien n'était. Et ça leur dérange pas du tout et c'est ça qui est beau de le voir en tant qu'animateur sans pouvoir interagir dans cette communication entre les enfants j'ai rien d'autre à dire en fait.
Oui, c'est sûr, de toute façon il faut se rendre compte d'une chose, c'est que quand on travaille aussi avec des enfants autistes, on a un attachement toujours très fort, humain, affectif, dans le partage, parce que les relations sont fortes. Et quel humain n'aime pas les relations fortes ? Voilà, tout dépend de la tradition, tout dépend de la société dans laquelle on vit, etc. Mais la relation est toujours forte. Forte, et il y a un attachement très fort qui se crée, surtout avec un jeune, souvent. Quel qu'il soit. Alors, l'autisme Asperger, c'est un peu particulier, et c'est un peu, Lisa, ce que tu décrivais tout à l'heure, me semble-t-il, dans les réactions que présentait ton camarade. Mais vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, lire des écrits, des romans d'un auteur qui s'appelle Joseph Chovanec, qui est autiste. Et, comment dire, quand vous lisez ses livres à Joseph Chovanec, qui est docteur dans plusieurs disciplines, je le redis, qui est docteur en plusieurs disciplines, c'est-à-dire qu'il y a des bacs plus 8 dans différentes disciplines, et pourtant il s'agit bien d'un autisme réel, hein, il ne s'agit pas d'une personne surdouée, intellectuellement précoce, qu'on définit comme autiste, parce qu'il peut y avoir une confusion parfois, parce qu'il y a quand même des caractéristiques... identique parfois chez un intellectuellement précoce et chez un autiste, mais cependant il s'agit bien là de la personne dont je vous parle, d'un autiste. Et cette personne va vous raconter comment elle a vécu sa jeunesse, comment elle a vécu ses études et comment elle vit aujourd'hui sa vie, comment il vit lui aujourd'hui sa vie de chercheur, sa vie de voyageur. C'est quelqu'un qui voyage énormément, qui est devenu aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes du Moyen-Orient de par ses voyages, qui va dans des endroits où personne ne va, personne, de peur des conflits présents, et peut-être que lui je sais pas, et sans crainte, ou alors à une certaine, comment dire, voilà, le fait de ne pas avoir de crainte, il est détaché de toute peur. Et alors, est-ce que c'est dû à sa personnalité? Parce qu'il y a évidemment aussi la personnalité de l'individu, en plus, qui se rajoute. Et donc lui, en tout cas, avec sa personnalité, avec ses troubles autistiques, est capable d'aller sur des terrains de guerre, d'aller dans un hôtel, d'aller manger dans un restaurant, dans un pays où les bombes s'échangent, voilà, d'un côté comme de l'autre.
Ok. Est-ce que vous avez des questions, mademoiselle, monsieur, Elisa?
Non, ok.
Non. Emma, on t'a beaucoup entendu. Ok. Je pense qu'on va peut-être conclure là. Axel, petit mot de la fin. Ou monsieur même, monsieur Noël.
Oui, bah avant la fin, si vous voulez, je voudrais juste dire une chose, c'est que les thérapies qui fonctionnent le mieux, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, à mon sens, ce sont les thérapies cognitives et comportementales, ou les TCC, ou alors aussi les thérapies qui font appel à l'analyse comportementale, qu'on appelle l'analyse ABA. ABA, donc je vous invite à aller chercher si vous le souhaitez. Il s'agit là des solutions les plus adaptées pour nous à l'école, en tout cas. Pendant l'école. Dans le domaine dans le monde du travail, je crois aussi que sans cet accompagnement, les choses ne pourront pas marcher aussi bien qu'elles le pourraient. C'est un peu nouveau en France parce que d'un pays à l'autre, les prises en charge sont très différentes.
Oui.
Très différentes. Alors, on n'en a pas parlé, mais je ne dirais pas ni que nous sommes en avance en France, ni que nous sommes en retard, parce que je veux faire de mal à personne par mes propos. Mais une chose est sûre, c'est que ces thérapies ABA, cette technique ABA permet... alors, vous irez regarder si ça vous intéresse, hein, c'est facile, hein, vous allez dans n'importe quel moteur de recherche et vous trouverez de quoi il s'agit. Ces thérapies permettent d'accompagner, de créer des protocoles, comme je le disais tout à l'heure. Hein, cette idée du protocole, elle est essentielle pour que ces exacerbations ou cette incapacité à réagir dans l'immédiat et cette tolérance au changement soit, rentre dans les réflexes, dans les habitudes, ça doit s'apprendre, c'est pas rien, il y a tout un cheminement développemental, neurologique à mettre en place. Et moi, ma petite conclusion, c'est de dire que nos neurones, c'est-à-dire nos petits éléments électriques dans notre cerveau, créent des chemins quotidiennement, et que contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps aussi, la recherche a prouvé que jusqu'à la fin de nos jours, nous créons des neurones. Parce qu'à la fin de nos jours, nous créons des neurones, et c'est en créant des habitudes, c'est en ayant des habitudes, en s'entraînant, que les chemins neuronaux se créent. Et grâce à ces chemins neuronaux, l'individu peut changer. En tout cas, s'habituer.
Mieux vivre avec ces troubles.
Je ne sais pas si c'est mieux vivre, mais c'est en tout cas s'intégrer plus facilement dans une société très codifiée. Et parce que notre société est très codifiée. Pourquoi on s'habille? Pourquoi on met des chaussures? Pourquoi on met un pantalon? Pourquoi on met des couleurs? Pourquoi j'ai une cravate? Pourquoi on a des lunettes de cette... Voilà. Pourquoi certains mettent des chapeaux? Pourquoi on met des soutiens-gorge? Pourquoi on met des... Bon, tout ça, c'est très codifié. Et là, je ne prends que des exemples vestimentaires. Hein, mais dans les relations sociales, pourquoi on se serre la main, pourquoi on fait la bise, pourquoi à gauche, pourquoi à droite, aller dans le nord de la France, dans le sud de la France, aller
pourquoi
dans
deux,
un autre pays,
pourquoi
deux, pourquoi trois, pourquoi un, voilà, bon, il y a tellement d'exemples de sociétés sur notre petite planète, perdues au milieu d'un amas de galaxies et de poussières, qu'on peut quand même, déjà sur notre petite planète, s'intéresser aux normes sociales, et se dire que nous, en France, ici, dans notre petite commune de l'Orgue, belle commune de l'Orgue, nous avons des habitudes, nous avons des fonctionnements, mais qui ne sont pas nécessairement les mêmes que nos voisins. Et bien, pour un autiste, ça, c'est très compliqué, parce que lui, il a du mal à intégrer ses normes sociales. Et on ne peut pas lui en vouloir. Et ce n'est pas anormal que de ne pas avoir ses normes sociales. Ce n'est pas anormal. C'est peut-être nous qui ne sommes pas complètement normaux quand on les a intégrées.
Je suis d'accord.
Voilà. Et puis, une autre peut-être idée, force, c'est tout à l'heure, je parlais de la prégnance génétique Il y a, et là ce sera peut-être l'objet d'une autre émission, l'idée de la possibilité de la mutation des gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique. Et c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de changement, et ça la recherche aujourd'hui n'est pas encore bien, bien aguerrie, bien au point, mais il y a quand même des pistes qui nous laissent à penser que le corps humain est en capacité de muter tout seul et de changer ses gènes tout seul. Voilà ma conclusion.
Merci.
Merci beaucoup pour cette émission qui fut vraiment très intéressante et qui sûrement va faire l'objet d'une prochaine émission parce qu'on est loin d'avoir tout dit. On vous remercie Monsieur Noël, donc le principal adjoint du collège, ainsi que Monsieur Lucas, professeur au lycée.
Merci à vous.
Et tout le reste de l'équipe, ainsi que l'équipe technique derrière, Elisa et l'équipe animateur, Elisa, Emma, Axel et moi, Axel encore. Et puis au revoir et n'oubliez pas de nous ajouter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et de nous retrouver sur le site internet.
En masse les réseaux, en masse, faut y aller direct.
Il y a des concours
des fois. Concours et tout.
Et des
merci
sondages.
Beaucoup.
Merci pour cette émission, merci à vous.
Au revoir.